Super. En passant, je remercie. Il y a un bon noyau du groupe qui a été fidèle. C'est toujours encourageant pour un prof d'avoir un groupe fidèle. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été là tout le temps, mais ils auraient voulu pour toutes sortes de raisons. Je sais qu'ils l'écoutent à l'extérieur du cours. Là. Je sais entre autres Mathieu puis Mélodie. C'est quoi? Mélodie, ça, ouais. Bon, avec l'accouchement de ça, j'en ai d'autres en tête aussi. Là. C'est que ça, c'est encourageant. Fait que je vais juste le mentionner. Est-ce que c'était clair la semaine dernière, le point, le thème que j'ai essayé de sortir du chapitre 3, puis comme une ligne directrice qui va nous amener au chapitre 4, chapitre 5, puis jusqu'au déluge. Est-ce que c'était clair? Y a-t-il quelqu'un qui peut me redire c'est quoi le point que j'essayais de mettre de l'emphase dessus, oui, Karine? Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et ça fait du sens quand si on revient dans le texte, on a le premier péché qui a eu lieu. On a Adam et Ève qui ont décidé qu'ils désobéissaient à Dieu. Le péché est entré dans le monde. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, tous les descendants d'Adam et Ève allaient être comme eux-mêmes, libres de faire un choix dans leur vie s'ils allaient décider de marcher par la foi en Dieu, croire Dieu, ou croire eux-mêmes ou croire le malin. Dans ce cas-là, tu sais, le Satan était venu tenter Ève. Le choix, c'est sûr que ça va. Les gens allaient se ramasser d'un bord ou de l'autre assez vite. Comprenez, là, tes parents, eux, ont fait un choix de marcher avec l'Éternel. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu vas faire ce choix-là? Si tu ne fais pas ce choix-là, ben on est au tout début. C'est que tu t'en vas, mettons, dans une contrée quelque part, t'as bâtir une ville, mais tu risques d'influencer tes enfants, puis tout ça, ils vont avoir une façon de vivre leur vie probablement, où ce que l'Éternel, Dieu, sera pas inclus dans leur vie tous les jours. Puis il y en a d'autres qui vont décider de suivre la voie de leurs parents, Adam et Ève, puis d'inclure Dieu, de croire Dieu, puis de vivre leur vie en obéissance à Dieu. T'sais. Le choix était là, on venait le péché d'une entrée dans le monde, on avait le choix de suivre ou non l'Éternel. Puis je crois que c'est pour ça que Dieu a permis que l'auteur mette le point là-dessus, mette l'emphase là-dessus sur le fait qu'il y avait une descendance qui allait suivre Dieu et une descendance qui n'allait pas suivre. Puis que la prophétie, dans le verset 15 du chapitre 3, c'est qu'il allait avoir une opposition entre ces deux descendances-là. Ça allait marquer l'histoire, bonjour. Ça allait marquer de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, ça marque l'histoire de l'humanité. On s'entend. Même on voit aujourd'hui l'Église qui est parmi le monde. C'est toujours, il y a cette opposition-là, le monde qui est sous la domination du Dieu de ce siècle, la domination du malin. Puis tu as l'Église de Christ qui, oui, on est pécheurs, sauvés par grâce, on veut marcher pour obéir à Christ, on est en lutte contre l'influence du monde. T'sais, cette opposition-là demeure. Maintenant, la prophétie dans le verset 15 allait plus loin que ça, ça allait jusqu'à promettre qu'un jour, de la descendance d'Ève, puis de la descendance d'Ève particulièrement qui marchait avec Dieu, allait venir une personne qui allait écraser la tête du serpent. Même le pronom « il » est utilisé dans Genèse 3, 15 ou 16. Et il y a vraiment une référence à une personne, à un moment donné, un Messie, qui allait venir régler, si on veut, on l'a réglé, l'opposition qui vient de Satan. Puis on sait que Christ a vaincu la mort. Et en Jésus, lorsqu'on met notre foi en lui, parce qu'il a vaincu la mort, nous aussi, on peut marcher en nouveauté de vie puis vaincre la mort, nous aussi. Donc, il y avait déjà une prophétie. Puis nous, on a juste un verset ici. On a une parole que l'Éternel a dit à Adam et Ève. Mais, tu sais, c'est pas exhaustif. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les discussions qu'Adam et Ève ont eues avec Dieu depuis la création. Ils en ont eu certainement beaucoup plus de discussions que ça. C'est que la conception d'Adam et Ève de leur espérance était peut-être pas mal plus complète que le texte peut nous laisser voir. Tu sais. Parce qu'on le voit après, on le voit leur attitude. Tu sais. On voit leur attitude de foi. Puis, juste quand Abel arrive pour offrir des offrandes, on est conscient qu'il y avait eu de l'enseignement parce que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel versus Caïn. Puis on apprend dans Hébreu, c'est parce que Caïn, lui, il n'a pas offert par la foi son offrande. Donc là, tu dis, OK, c'est que ça veut dire que Caïn ne faisait pas confiance à Dieu. Ça veut dire qu'il y a de l'information là, qui avait été donnée puis que Caïn n'a pas suivi. C'est à quelque part, là, parce que si tu veux marcher par la foi, il faut que tu saches la personne que tu crois, là, qui rend Dieu, il faut que tu saches qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle veut. Autrement, c'est je sais pas quoi faire autrement. T'sais. C'est que c'est ça. C'est que là, le verset, c'est le verset 15 au chapitre 3 qu'il faut garder en tête là, pour se rendre jusqu'au chapitre 6. Puis évidemment, au chapitre 6, moi, je vais vous dire ce que je crois être l'interprétation du texte à cause de cette ligne directrice-là. Maintenant, je suis toujours ouvert à ce qu'il y a il y a d'autres interprétations, mais moi, je vous présente ce que je crois que l'auteur du texte veut nous amener. C'est qu'on a cette opposition-là, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, celle du serpent, donc figurativement ceux qui marchent à la manière de Satan, parce qu'on sait que Satan, il avait pris possession du serpent à ce moment-là, et sa descendance de la femme. » Mais on sait que tous descendent de Ève, hein? Autant ceux qui vont invoquer le nom de l'Éternel que ceux qui ne l'invoquent pas. Mais on fait vraiment ici une référence à ceux qui, à la manière d'Ève, vont marcher avec Dieu. Puis je vous ai dit plusieurs points pour montrer qu'Adam et Ève, dans les versets qui suivent, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, on a plein d'indices que leur vie, on se rappelle d'eux pour le premier péché. Mais on devrait se rappeler d'eux aussi parce qu'ils ont marché avec l'Éternel en bout de ligne, puis ils ont eu un fils, Seth, qui a remplacé Abel, puis qui a suivi dans la lignée de son père. Et Adam et Ève, c'est ça qui devrait être la dernière pensée qui nous vient. Ils ont décidé de suivre l'Éternel. Ça n'a pas été le cas de toute la population. On a l'exemple de Caïn, de leur fils qui n'a pas suivi. Mais bon, donc, « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon et tu lui blesseras le talon. » Il y avait vraiment une référence qu'un jour aussi, elle allait avoir comme une bataille entre les deux. C'est à la croix, ça s'est passé. Donc, ça, c'est le verset que je voulais vraiment sur lequel je voulais mettre de l'emphase. On ne reviendra pas sur toutes les exemples qu'on a de la foi d'Adam et Ève. Je sais que j'ai lu rapidement la semaine dernière, mais je trouvais que c'était des... Je vais les relire encore. Hein. On va juste re-mentionner quelques points sur Caïn et Abel. chapitre 4. « L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Donc, clairement ici, c'est leur premier-né, Caïn, c'est le premier fils du couple. Et Ève est émerveillée d'avoir donné naissance. C'est la première fois qu'elle expérimente ça, puis elle donne gloire à Dieu là, dans cet événement-là. Maintenant, à savoir si Abel, c'était le deuxième garçon, ça, c'est pas clair dans le texte. Donc, à l'âge où ils sont rendus, Abel et Caïn, on s'entend qu'ils sont rendus à un âge assez avancé lorsque cet événement-là va se produire. T'sais, ils sont rendus des hommes, là, c'est plus des enfants. Les deux ont des travaux physiques demandants, puis bon. C'est clair que jusqu'à temps que Caïn et Abel arrivent avec leur histoire, il y a eu encore des... Adam et Ève ont fait d'autres enfants. Ils ont obéi à Dieu de procréer puis de remplir la terre. C'est pas pour rien que quand Caïn va quitter la terre de sa famille, il va prendre une femme. Je veux dire, la femme qu'il a prise, c'était une de ses sœurs. On s'entend que ça... Il n'a pas trouvé une femme de même à quelque part. Là. Bon, il avait eu, mais Adam et Ève avaient eu le temps de procréer en masse. Là. On va dire, mettons, je ne sais pas l'âge qu'il avait, mettons qu'il avait 30 ans. Peu importe, comprenez, ça fait du monde. Puis à un moment donné, c'est que ça fait... plus les gens vivent longtemps, puis arrêtaient pas Adam et Ève, mettons, de faire des enfants, mais à un moment donné, toi, mettons que tu as 30 ans, tu vas refaire ta vie ailleurs, mais c'est pas sûr que tu vas nécessairement suivre tout le restant des frères et sœurs qui vont aboutir dans ta famille. Puis à un moment donné, carrément, ça devient assez gros que tu perds un peu le fil assez vite, là, tu sais. OK, ma mère est rendue avec sa 36e fille, mais la 14e, elle a eu un fils, puis il y a déjà une autre fille. Puis je pense qu'ils sont rendus dans telle région. Tu sais, à un moment donné, ça va vite. Ils vivaient 900 quelques années, comprenez? Là, c'est sûr que les... Mais c'est clair qu'au début, il n'y avait aucune interdiction comme quoi de se marier avec ta sœur ou ton frère. C'est des interdictions qui sont venues sous la loi de Moïse. Puis il n'y avait pas de problème génétique à le faire non plus. Il n'y avait pas de maladie comme aujourd'hui, etc. Donc, l'important, c'était que tu te mariais, tu t'attachais à ta femme. T'sais, c'était vraiment encore ça a toujours été dans le plan de Dieu, la monogamie, le mariage pour toujours, d'être avec une personne, un homme et une femme. Donc, on arrive à l'histoire de Caïn et Abel. Et là, on voit que, on va lire là, les versets, ça va être plus simple. Elle accoucha encore de son frère Abel. Comme je vous dis, c'est encore, on ne sait pas nécessairement, ça veut dire que c'est absolument le deuxième, OK? C'est pas clair dans le texte. Peut-être que oui, peut-être que non. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Déjà là, c'est clair. Pourquoi est-ce que Caïn, on en a parlé brièvement, pourquoi Abel aurait été berger? Probablement qu'il aurait été berger, entre autres, oui, pour servir de la laine puis de la peau. Je veux dire, Dieu venait juste déshabiller des habits de peau, là. Je veux dire, à quelque part, il y avait une autorisation de le faire, probablement. Ou en tout cas, si c'était pas de la peau, au moins de la laine, il pouvait servir de la laine des moutons. Mais une chose est claire, c'est que là, Abel s'apprête à tuer des animaux pour faire couler leur sang, pour offrir une offrande à Dieu. Puis Dieu va porter un regard favorable là-dessus. Ça veut dire qu'il avait autorisation de le faire. Pas juste autorisation, c'était pas une idée de même qui a passé dans l'esprit. Et ça serait cool d'égorger un agneau. C'est pas quelque chose de naturel à faire si Dieu t'a pas donné la permission. t'es pas supposé de manger des animaux, tu manges juste des végétaux, puis d'un coup, tu tuerais un animal juste comme ça. C'est sûr que Dieu a instruit à quelque part. Et ce qui confirme ça, c'est quand on va dans le Nouveau Testament, je pense que ça peut pas être plus clair que là, puis je vous ai lu les versets rapidement, mais je vais les relire encore. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans la loi de Moïse, c'était clair qu'il fallait que le sang coule pour que Dieu pardonne les péchés. Ça veut-tu dire que c'était comme ça avant la loi de Moïse? Il y a des bonnes chances, OK? Dieu est constant dans ce qu'il demande puis dans ce qu'il veut. C'est que lorsqu'il a institué la loi de Moïse, il y a peut-être déjà des enseignements qui avaient été donnés parce que les gens qui servaient Dieu offraient déjà des offrandes. Vous avez remarqué que Noé, c'est une des choses qu'il a faites, une des premières choses qu'il a fait lorsqu'il est sorti de l'arche après le déluge, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait amené 7 couples d'espèces pures. Il n'avait pas amené juste un couple, il en avait amené un peu plus. Parce qu'à la fin, il en a sacrifié une méchante gang en honneur à l'Éternel après le déluge. Ça a été une odeur agréable à Dieu. Donc, mais les versets qui m'intéressent, Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Ça veut dire que quand Abel a choisi des premiers-nés de son troupeau, c'était un exercice de foi. Ça veut dire qu'il était en train de faire confiance à Dieu, il lui obéissait. Hébreux nous le spécifie ici. C'est pas juste parce que ses moutons étaient plus beaux que les pommes à Caïn, c'est pas ça. C'est vraiment un exercice de foi. Que celui de Caïn, c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Abel a été justifié parce qu'il a eu la foi. Comme nous aujourd'hui, on est justifié parce qu'on a la foi dans le sacrifice de Christ. Même chose, c'est la foi. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et là, on tombe dans 1 Jean, où est-ce qu'on parle dans 1 Jean, j'ai pris ces versets-là pour parler de Caïn. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu dans 1 Jean 3:10, et les enfants du diable, l'opposition entre les deux. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Qui était quoi? Qui était du malin. Caïn était l'exemple d'un fils du malin. J'arrive à toi, Karine, je fais juste la finir le verset. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Puis c'est pour moi le point intéressant dans 1 Jean. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Pourquoi les œuvres de Caïn étaient mauvaises? Parce que Caïn n'a pas agi par la foi en Dieu. C'est pour ça que ses œuvres étaient mauvaises. Puis je pense que le Nouveau Testament nous confirme un peu plus que ce qui s'est passé dans le récit. Oui, Karine? Ah, ben c'est clair, ouais. Mm-hmm. Ah, c'est clair, ouais. Caïn, on discerne énormément d'orgueil. D'ailleurs, tout à fait. C'est de vouloir prendre ta vie en main. De vouloir être Dieu, dans le fond, avoir le contrôle sur les choses. C'est ça, c'était ça le péché de Lucifer. C'était le péché qui a été proposé à Ève. Vous allez être comme des dieux, vous allez prendre votre vie en main. C'est le péché aussi qui nous est proposé de nos jours par le monde. Je veux dire, c'est pourquoi on a besoin de Dieu. Nous, les humains, on peut s'organiser entre nous autres, puis on peut développer nos idées sur le monde, puis Dieu, tu sais, si Dieu n'existe pas, c'est une idée, tu sais. La réalité, c'est ce qu'on voit là. On veut tout expliquer, tu sais. On a juste évolué. L'évolution, c'est une idée qui est au-dessus de toute la conception. C'est qu'on peut tout expliquer, on peut tout contrôler. C'est cette idée-là de contrôle. Je veux pas mettre ma foi en quelqu'un. Je mets ma foi ultimement en moi, en l'être humain, tu sais. C'est ça, l'humanisme, c'est une religion. Si on veut parler de religion, pour utiliser des termes contemporains, mais c'est une religion qui met sa foi dans l'homme. C'est que moi, quand je raisonne avec mon cerveau, je suis digne de confiance, moi. Mais pourquoi moi, je serais plus digne de confiance qu'un créateur, tu sais? Même logiquement, je trouve que c'est plus sensé de croire à un créateur que de me croire à moi. Je veux dire, au pire, si je suis le fruit d'une évolution, tout ce que je pense, c'est arbitraire, ça n'a pas de base. Puis on décide ensemble, on se met 4-5, puis on décide c'est quoi la vérité, puis ça n'est pas vraiment non plus la vérité. T'sais. Au pire, vous comprenez, c'est que c'est vraiment une autre façon de penser. Puis Caïn exemplifiait bien ça. Caïn, après qu'il ait tué son frère, premièrement, Caïn, quand il a vu que Dieu a favorisé l'offrande de son frère, il a été très irrité et son visage fut abattu au verset 5. Puis après ça, Dieu vient vers lui puis lui dit « Pourquoi est-ce que tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? » Puis il dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Là, je pourrais faire un beau parallèle parce que c'est exactement la même chose qui est dit à Ève dans les conséquences du péché. Elle dit, le péché, c'est dit à Ève, là, ben, je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais pour ceux que ça peut intéresser, je le mentionne rapidement. C'est dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. La même expression dans l'hébreu ici revient par rapport à Caïn et le péché. Le péché est là, il est juste sur le bord de la porte. Tout ce qu'il veut, là, il veut juste prendre le contrôle sur toi. Ses désirs se portent vers toi, le péché, mais toi, le Dieu est en train d'encourager Caïn, domine sur le péché, le faisant fi, fait comme s'il n'existe pas, tu sais. Ne donne pas le contrôle au péché parce que Dieu est bien conscient, puis c'est encore gracieux de la part de Dieu de parler comme ça à Caïn. Parce qu'il voit Caïn est en lutte là, avec tout son orgueil puis son désir de vengeance. Puis là, il est en train de l'encourager. Il dit, je sais le péché sur le bord de la porte, là, tu sais. Et Caïn a fait fi de cet acte de grâce de Dieu-là. Puis il a même planifié son affaire, puis ça avait de l'air pas mal planifié son meurtre. Ça avait de l'air prémédité. Il a dit à son frère de venir dans le champ avec lui. Puis rendu dans le champ, là, il l'a tué. C'est que tu vois déjà dans son cœur, il a décidé qu'il laissait le péché porter ses désirs sur lui, puis prendre le contrôle de lui. T'sais. Et lorsque Dieu vient me demander à Caïn, où est ton frère? Là, l'attitude de Caïn, elle est zéro repentante. Là, on a vraiment tout son orgueil, son arrogance qui est étalée au plein jour. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? Verset 9. Je veux dire, là on voit l'attitude de Caïn. Et là, Dieu, évidemment, donne une conséquence dans sa justice à Caïn. Il va dire, écoute, maintenant, tu vas être maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, à toi particulièrement. Et en bout de ligne, la malédiction que Dieu dépose sur Caïn, c'est que tu vas être errant et tu vas trembler sur la terre. Tu seras prêt à mettre ton pied quelque part, tu vas toujours être en train de te déplacer d'une place à l'autre. C'est pratiquement le début du nomadisme. Et là, Caïn, là, il trouve ça lourd comme conséquence. C'est gros, là. Je veux dire, lui, il va s'en aller. Si je me promène de même, je veux dire, puis tout le monde sait que je viens d'être faire commettre le premier meurtre. Là, je veux dire, il va me faire sauter dessus, il va me faire tuer moi-même. Tu sais, je veux dire, il y a un de mes frères que je connais pas trop qui va vouloir venger Abel, tu sais, il y a la chienne. Vous voyez, encore là, c'est pas de la repentance, c'est de la peur. Il y a de la peur pour lui. Pour sa peau à lui, là. Il n'y a pas d'attitude de repentance à ce point-ci. Il dit au verset 13, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable. Je devrais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Et là, on a la grâce de Dieu encore. Dieu aurait pu bien dire, « Ben, tant pis pour toi. » C'est une attitude qu'on pourrait avoir nous autres. Ça, je dis, on lit le texte. On voit beaucoup plus la grâce de Dieu, à mon avis, même que la colère de Dieu ici, même dans le chapitre 4. Dieu dit à Dieu, va, par grâce, va même protéger Caïn au verset 15. Il va mettre un signe sur Caïn pour que tout le monde sache que lui particulièrement, il est protégé de Dieu. Si quelqu'un touche à Caïn, il va être vengé. Caïn va être vengé par Dieu. C'est que l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Donc les gens avaient une crainte de toucher à Caïn parce que Dieu avait décrété ça. Je ne sais pas quel signe qu'il a mis en passant, là, mais il y avait un signe quelconque qui était visible pour tout le monde. Et là, c'est là qui est intéressant, c'est que Caïn, on va voir assez vite, n'a pas changé d'attitude non plus, malgré encore la protection. Là, on voit, ça nous dit verset 16, « Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et parti habiter dans la terre de Nod. » Nod, ça veut dire errance, ça va bien un peu avec sa conséquence, à l'est d'Éden. Donc, il est parti à l'est d'Éden. Et là, ce qui est intéressant, on voit déjà la rébellion de Caïn qui se poursuit dans sa vie. Dieu vient lui dire, tu vas errer de ça et là sur la terre. C'est quoi la première affaire que Caïn va aller faire, verset 17? Après avoir connu sa femme, là, il va se trouver une femme. Il va la connaître, elle va tomber enceinte. Mais c'est quoi qu'il fait après? Il se bâtit une ville. T'sais, c'est pas marqué dans le texte, mais Dieu vient de dire, regarde, tu vas errer toute ta vie, mais quand il dit non, on le voit pas que c'est ça sa réaction, mais une des premières choses qu'il fait après avoir fait un enfant, cette mariée, c'est qu'il veut s'établir, puis il construit une ville. Là, tu comprends-tu? Il fait pas juste s'occuper de sa petite famille, il va se bâtir une ville. Fait qu'il va s'établir. Et du verset 17 au verset 25, on a vraiment, c'est voulu de la part de l'auteur, on a un exemple de quoi ça donne. quand une personne décide de ne pas marcher avec Dieu, de se rebeller, voici à quoi ça ressemble sa descendance. Puis c'est pour ça qu'ils ont mis ces versets-là dans le texte. C'est vraiment pour nous montrer un bel exemple d'une descendance sans Dieu. Puis vous allez remarquer dans les versets 17 à 25, on n'a aucune mention de l'Éternel puis de quelconque invocation de l'Éternel. On a plein d'autres mentions super hautes d'ailleurs qui sont super valorisées de nos jours. On lirait le verset 17 à 25 et on dirait « Wow, ça c'est du bon monde qui sont à leurs affaires. » On va le lire ensemble. D'un point de vue humain, ça a l'air du bon monde qui sont à leurs affaires. Donc, au verset 17, quand il connut sa femme, elle devint enceinte, accoucha de Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. À Enoch naquit Irad. Irad engendrait Mehouyaël. Mehouyaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Bon, ça part déjà mal. Il y a déjà dit avec le mendi que c'était « Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme ». Non, lui, il a pris deux femmes, appelées l'une Ada et la seconde Sila. Ada accoucha de Yabal. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. Donc, Yabal, du temps de la rédaction de Genèse, du temps israélite, s'il voulait se rappeler, c'est qui l'ancêtre des éleveurs nomades, des éleveurs qui voyagent avec leurs troupeaux? Ben, c'était Yabal. Comprenez que c'est tout un accomplissement pareil d'avoir développé ça, l'élevage, puis de pouvoir voyager aussi pour avoir trouvé de la nourriture pour tes bêtes, etc. C'est pas quelque chose de simple. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. C'est tout qu'un accomplissement ici, là. Ça veut dire que la musique a été découverte. On a découvert, il y a énormément de mathématiques dans la musique. Il y a quelque chose de je dirais qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de révélateur. Merci. Il y a quelque chose de je dirais un argument en faveur de la création dans la musique même. Puis là, il y a un des fils de Lémec qui a découvert, puis en plus, il a développé des instruments de musique. Ça prend toute une intelligence, là. Il semble avoir des instruments à air là-dedans, d'autres instruments à cordes. Tila, de son côté, donc l'autre femme de Lémec, elle accoucha de Toubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Là, c'est tout encore qu'une patente. Pensez-y, là. Ils ont découvert que tu pouvais faire fondre des minéraux. Ils ont découvert, tu sais, c'est que tu as recherché en géologie, puis on dit en faisant fondre des trucs, ça solidifie, ils font des alliages, puis ils sont capables de forger, là. Ça veut dire que tu donnes une forme à. Ça veut dire qu'il faut que tu utilises le feu, il faut que tu utilises des températures super élevées pour amener de la liquéfaction de solide. Je veux dire, il y a tout, puis là, il faut que tu aies des moules. Puis je veux dire, ça se fait pas de même, là. Qu'il y a des générations de travail, c'est du monde qui ont mis de l'énergie dans leur vie pour développer ça. Oui, ils vivaient longtemps. Mais ceci étant dit, peu importe comment tu vis longtemps, il faut que tu aies un intérêt de développer de quoi tu peux. Sinon, tu peux juste vivre ta vie à cultiver la terre, puis manger des pommes, puis t'amuser, puis c'est correct, là. Mais c'est, ici, il y avait vraiment un... Mais vous comprenez, c'est ça qui sort du texte. Aujourd'hui, on dirait « Wow, man, c'est innovant. » Aujourd'hui, on dirait « C'est super, innovation, intelligence, grandeur humaine. » Mais c'est ça le point ici, c'est que c'est pas mal en soi, ces choses-là. Ce qui est mal, c'est tout ce qui compte. Dieu est totalement... Ils font totalement abstraction de Dieu, puis il y a une valorisation ici de l'être humain. C'est pas mal en soi, mais quand ça prend la place de Dieu, c'est encore le même principe aujourd'hui. Mais là, on arrive à Lémec, par exemple. Là, on a vu ses fils, c'est des businessmen, tu sais, je veux dire, les gars, ils ont développé des méchantes technologies, ils ont dû faire du cash, tu sais, bon, j'exagère, là, mais les mecs pouvaient se vanter de ces garçons. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'il fait au verset 23, on a probablement un des plus vieux poèmes jamais écrits ici, parce que c'est vraiment un petit poème en hébreu qui a été gardé dans les annales de l'histoire humaine, les paroles de les mecs ont été gardées quelque part, puis ça a été transcrit ici. Donc, je peux pas expliquer la poésie hébraïque là, derrière tout ça, mais c'est pour ça, des fois, quand c'est traduit en français, ça a l'air d'être un petit peu difficile à comprendre. Mais grosso modo, je vais vous le lire, puis grosso modo, je vais vous expliquer en nos mots qu'est-ce qu'il dit. Lémec dit à ses femmes, « Ada est-il là? Écoutez ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Dans le fond, ici, ce qu'on a, c'est un homme aussi arrogant que son ancêtre, sinon plus. C'est quand je vous dis que là, on a un indice un peu sur le genre de famille de Lémec, ses enfants, ils devaient être pas mal poussés pour être des kings. On a un Lémec ici qui convoque sa famille, ses femmes, puis qui se vante carrément. Il est en train de se vanter, d'écouter, moi, Il dit, tout le monde le sait parce que c'était su, Caïn va être vengé cette fois s'il est touché. C'est que c'est connaissant en général. Il y avait un signe sur Caïn. Il était peut-être encore vivant aussi. Puis, c'était leur ancêtre. Mais il dit, moi, par exemple, moi, si on me touche à moi, les mecs, je vais être vengé 77 fois. C'est rien comparé à Caïn. Puis je ne vais pas être vengé parce que Dieu me protège. C'est parce que mes gars me protègent au pays. J'en ai un qui a développé des armes. T'sais, en bout de ligne, quand tu forges des tu vas vite. Avec le cœur humain qui lit ce qu'il est, tu vas développer des armes pour te protéger ta ville contre une autre ville, tu sais. Puis c'est pas long qu'avant que le déluge arrive, que la violence est répandue sur toute la terre, là. Je veux dire, on n'a pas inventé des péchés de nos jours. Je veux dire, avant le déluge, c'était pas mal là, okay? Tout ce qui peut être sexuel et violence et crime et tout ça était pas mal établi, à un point tel que Dieu a décidé qu'il se repentait d'avoir créé l'être humain. C'est qu'on a notre Lémec ici, dans le fond, ce poème-là révèle juste l'arrogance de cette génération-là, de cette descendance-là, puis Lémec en est l'exemple ultime. Il se glorifie de sa progéniture, puis il dit que sa protection à lui va être assurée bien mieux que celle de Caïn, de la part de Dieu. Lui, sa protection, c'est lui-même, dans le fond, c'est ses enfants à lui. C'est ça l'idée qui sort de ce petit poème-là. Et non, c'est ça, c'est pas clair, c'est plus dans le sens que si on veut me toucher aussi, bon... où je peux faire un peu ce que je veux, puis si moi je fais ce que je veux, qu'il y a une atrocité, je serais pas... Caïn a tué quelqu'un, moi je pourrais tuer quelqu'un, puis il n'y a pas personne qui va me toucher. T'sais. C'est un peu l'arrogance de Lémec ici. Puis ça finit ça. Voilà, on a une description aussi de la descendance des Caïnites, des descendants de Caïn. Puis c'est pas pour rien qu'on a mentionné ça. L'auteur a un but très très clair, c'est de nous montrer, voilà ce que c'est l'exemple d'une génération qui ne suit pas l'Éternel. Puis certainement qu'aujourd'hui, on peut regarder dans la société, puis c'est exactement ça. C'est exactement ça, en des termes plus postmodernes, comme si on était plus intelligent, là, mais c'est la même affaire. Même arrogance, même reliance, même confiance en soi, confiance en l'être humain, en bonté de l'être humain. Tu sais, fusillade atroce qu'il y a eu cette semaine. C'est quoi la constatation des gens? C'est terrible tout ce qui s'est passé, mais c'est encore, il y a des fous. C'est pas l'être humain est pécheur. Le problème, c'est qu'il y a des fous. Il y en a une coupe, puis il faudrait réussir à les contrôler, cette coupe-là, pour pas qu'il arrive des atrocités. Comme ça, c'est souvent le discours, il y a des fous à quelque part, ou il faut contrôler les armes à feu, là, peu importe votre position là-dessus. T'sais, c'est toujours l'extérieur. On va contrôler des trucs, puis on va arriver que ça se passe plus. C'est comme cet espoir-là encore que l'être humain est bon. Mais là, c'est juste un anicroche. On en a pogné un qui avait des cellules qui fonctionnaient mal. T'sais. C'est ça quand tu lis les journaux qui sortent. T'sais. C'est pas. Moi, je suis aussi payé que ce gars-là qui a tiré dans le sens que, en dedans de moi, je suis aussi dépravé devant Dieu. T'sais, le péché m'habite autant qu'il habite l'autre à côté. Puis le problème, c'est le péché qui nous habite. C'est pas ça la discussion. T'sais. C'est encore ça, l'humanisme. C'est on pense qu'à force d'intervention, à force de contrôle, on va devenir mieux. T'sais. En tout cas, ça n'a pas changé. Verset 25, puis là, c'est l'encouragement, c'est qui suit la prophétie de Dieu. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Et là, c'est clair que ça, c'est le prochain fils qu'elle a eu après Abel. OK? Peu importe, c'est le combientième, c'est celui qui suivait Abel à cause de son nom. Elle l'a appelé du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Voyez, vraiment, l'auteur veut vraiment qu'on comprenne, là, on revient à la descendance d'Ève, à la descendance de la femme qui marche avec Dieu. Et Dieu est encore dans le portrait pour Ève. Vous voyez, là, c'est la première mention de Dieu dans les versets qu'on vient de lire, parce qu'on en revient à la descendance d'Adam. À Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Une phrase. On vient d'avoir 10 phrases pour nous parler des grands achèvements, des grandes réalisations humaines. Puis là, on a une phrase pour décrire la génération, la descendance de Seth. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Puis c'est très voulu dans le texte, là. Il y a vraiment ici une opposition, puis c'est ça que le chapitre 4 nous montre, l'opposition entre les deux descendances. Et ça se poursuit au chapitre 5, parce qu'au chapitre 5, on a maintenant, après ça, le livre de la postérité d'Adam. Et là, c'est là que je vous disais qu'il y avait des petits titres dans Genèse qui divisent des chapitres, mais là, le chapitre qui suit, voilà toute, si on veut, l'histoire des descendants d'Adam, qui, à la façon d'Adam, ont marché avec le Seigneur, et voici leur descendance. Et c'est des jours, cette descendance-là a été marquée par l'attitude d'Adam. C'est pour ça qu'ils disent, voici le livre de la postérité d'Adam. Puis ils ne passent pas par Caïn, ils vont passer par Seth pour montrer cette descendance-là. Okay? Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. On avait vu ce verset-là, on avait vu le verset 2. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit, il les appela du nom d'homme, c'est-à-dire le nom générique, au moment où ils furent créés. Et Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Donc vraiment, là, c'est l'idée, il est en train de nous décrire encore la descendance d'Ève. C'est un fils qui n'est pas à la ressemblance de Caïn, mais à la ressemblance d'Adam, selon son image. Il n'est pas en train de dire qu'il lui ressemble physiquement. C'est qu'il lui ressemble dans son désir de marcher avec l'Éternel. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. C'est qu'en ont eu des enfants Adam et Ève. Il a vécu 930 ans. Si on calcule qu'il y a eu Seth à 130 ans. Plus 800 ans après 930. De toute façon, ça dit au verset 5. Je sais pas pourquoi je vous fais les calculs. Puis il mourut. Donc, on comprendra bien dans les généalogies hébraïques, juives, que, mettons, ils disent qu'il avait tel âge quand il engendrait un gars, c'est pas à 105 ans qu'il a eu son premier enfant. C'est qu'à 105 ans, il y a eu cet enfant-là, puis dans la généalogie, c'est cet enfant-là qui intéresse l'auteur, parce que c'est de cette lignée-là, éventuellement, qu'on va se ramasser à Noé, puis en continuant avec Noé, qu'on va se ramasser à Jésus, parce qu'ultimement, on est en train de suivre la prophétie du verset 15, chapitre 3, là, que la descendance d'Ève va nous donner le libérateur. C'est qu'on est en train, cette généalogie-là fait la même chose, c'est qu'on passe par 7. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la première personne qu'on s'arrête pour nous parler, ça va être tout le contraire de Lémec. Quand on lit la descendance de Caïn, on arrête un moment donné pour nous parler d'un personnage, puis on nous parle de son arrogance. Puis là, quand on va suivre la descendance de Seth, puis on arrête un personnage particulier, on va parler au contraire. On va parler de son humilité puis de sa marche avec Dieu. Tout à fait le contraire de Lémec. Et c'est quand on arrive au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. C'est ça qui marque sa vie à Enoch. Il a marché 300 ans avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Voici une des deux seules personnes qui nous est mentionnée dans la Bible qui n'est pas mort physiquement. Dieu l'a enlevé avant sa mort avec Élie. Avec Élie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Enoch nous est parlé dans le Nouveau Testament aussi. J'aime ça lire le Nouveau Testament pour compléter le récit de l'Ancien Testament. Là, c'est super. Je vais d'ailleurs vous dire de quel verset qui parle d'Enoch. Saviez-tu que dans Enoch, ça nous en parle dans Hébreu? Puis dans un autre livre, savez-vous dans quel autre livre ça nous parle d'Enoch? Un livre qu'on ne va pas voir souvent. Dans Jude, on va aller voir dans Jude aussi. Enoch versus Lémec. Enoch a une vie d'intimité, de communion avec Dieu. C'est un homme qui a foi dans les promesses divines. On dirait que j'en dis plus que le texte, mais je vais aller voir dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, versets 5 et 6. Comment qu'Enoch fut enlevé, ne vit point la mort? Bien, c'est comme Abel. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bonjour. Vous avez le cours de membre? Dans les explorateurs, l'autre porte, juste pour les deux prochaines semaines. Ou juste ce matin, je sais pas, j'ai dit. Donc, avant qu'il soit enlevé, il y avait eu le témoignage qui était agréable à Dieu. Puis on a le verset qu'on connaît tous, au verset 6, comment qu'on peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe, évidemment. Il faut qu'il croie que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, Dieu va te rendre, va te rémunérer, va te... Il va te rendre, si tu cherches l'Éternel, tu vas trouver l'Éternel. Il va te donner ce que tu cherches. Et ça, c'est l'attitude qu'il faut que tu ailles quand tu approches Dieu. C'est que les gens ne connaissaient pas Jésus à l'époque parce que Jésus n'était pas venu, mais il avait la même attitude quand il arrivait à Dieu, comme on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Je suis un misérable pécheur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je crois que c'est toi qui as la recette de mon bonheur. C'est toi c'est en toi que je trouvais la vraie paix et la vraie joie. C'est qu'il avait la même attitude, ces hommes-là. Et ces femmes-là. Hébreux 11, d'ailleurs, est un texte rempli d'exemples de foi de l'Ancien Testament. Et on nous parle d'Enoch ici, c'est vraiment intéressant, parce qu'on nous en dit plus, en même que ce que Genèse 5 nous dit. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller dans Jude 1, 14. Vous n'avez peut-être jamais réalisé ça, mais dans Jude 1, 14, on nous parle d'Enoch. Puis on nous parle d'Enoch comme un homme qui était un prophète, qui avait un témoignage clair auprès de sa génération. C'est un homme qui parlait de Jésus. C'est un homme qui parlait de Dieu, qui n'avait pas honte de sa foi en Dieu. Puis c'était un prophète parce que c'est une prophétie d'Enoch qui nous est mentionnée dans Jude 1, 14 et 15. Et c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, okay, c'est qu'on ne se trompe pas, on parle de la même personne, a prophétisé. Donc c'était un prophète et il prophétisait en ces termes. Puis on a des paroles que Enoch a dit de son temps de vie sur la terre durant ses 365 ans. Et voilà ce qu'il dit. Puis là, ça nous donne une idée un petit peu sur le genre de piété qu'il y avait sur la planète rendue là, OK? Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. C'est qu'on a un homme qui prophétisait de son temps et qui oui, il est déjà en train d'annoncer un jugement parce que la terre est en train de plus en plus se remplir de violence, puis il y avait une seule descendance qui invoquait le nom d'Éternel, c'était la descendance de Seth, mais le reste, c'était n'importe quoi. Puis on a un homme avec plein de courage et de foi qui est en train de dire « Dieu ne jugera, Dieu ne laissera pas impunis vos actes d'impiété » puis qui est en train de proclamer haut et fort son adhérence à l'Éternel, puis aussi est en train de prophétiser sur le fait que l'Éternel est un Dieu qui est juste. C'est intéressant, c'est que ça, par l'Esprit de Dieu, c'est un texte qui nous a été gardé de la part d'Enoch, puis comme je sais pas comment Jude a mis la main là-dessus, là, mais l'Esprit de Dieu a dirigé pour qu'il mette la main là-dessus. On est des paroles inspirées d'Enoch. Et je trouve que le contraste est immense avec les mecs, et je pense que c'est voulu dans le texte que le chapitre 5 contraste énormément avec le chapitre 4, les deux générations, les deux descendances. C'est pour ça que je prends le temps de vous y aller tranquillement pour vous voir. Je suis pas en train d'inventer une ligne directrice, elle est vraiment là dans le texte quand on la regarde comme il faut. Et là, on arrive, on suit, puis on va tomber à un autre Lémec, qui n'est pas le Lémec de la descendance de Caïn, mais qui est le Lémec de la descendance de Seth, qui est le père de Noé. Puis voilà un autre homme qui, dans sa marche, est un homme aussi qui parlait de Dieu. Vers la fin de sa vie, soit que Lémec est décédé. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, c'est pas clair s'il a marché avec Dieu toute sa vie, Lémec, mais en tout cas, au moment où il parle, il marchait avec Dieu, c'est clair. Et là, on voit que âgé de 182 ans, au verset 28, il a engendré un fils puis lui a donné le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de la peine que nous causent nos durs travaux manuels sur le sol que l'Éternel a maudit. » Les gens vivaient vraiment la conséquence du péché. C'était pas facile de sortir les fruits du sol. Et d'autant plus, les gens qui invoquaient le nom de l'Éternel étaient conscients que c'était pas juste une bad luck si ça était difficile, c'était une conséquence du péché. Puis c'était un rappel pour eux aussi de leur condition de pécheurs. Puis c'était des gens qui incluaient Dieu dans leur vie. Puis même quand il dit, écoute, je vais donner le nom. Les mecs ont comme fait une prophétie en ayant Noé. C'est lui qui va nous consoler de la peine qu'on a en travaillant le sol qui a été maudit. Puis certainement ici, sans le savoir, les mecs sont en train de faire référence que c'est à travers Noé que la race entière va être sauvée. Puis même après le déluge, on va voir que Dieu fait une promesse qu'il va plus maudire la terre de la façon qu'il l'a maudit. Il y a peut-être une référence au fait que le sol était peut-être plus difficile à cultiver avant le déluge qu'après. C'est pas clair, mais Dieu fait, on va le voir au chapitre 9, il y a une référence à la malédiction de la terre aussi. C'est qu'il y a une prophétie qui est faite par les mecs, mais ça reflète encore que Noé était élevé par des parents qui parlaient de Dieu, qui vivaient avec Dieu. Et tu sais, Noé n'a pas inventé sa propre marche avec Dieu. Il a eu un exemple aussi à suivre. Ça a été ses parents, son père tout du moins. Et il mourut, verset 31, il a vécu 777 ans, il mourut. Il nous a remarqué tranquillement que les âges commencent à diminuer. Hein. C'est pas un hasard. On part de 900 quelques, puis on tombe dans les 700, puis ça va aller en diminuant. Puis c'est vraiment la conséquence que le péché a. Le péché, on est plus longtemps le péché est, plus longtemps la génétique s'endommage. Okay? Puis c'est vraiment ça qui. On ne connaît pas les causes directes du vieillissement, mais il y a de quoi que le péché a changé dans la dynamique de nos métabolismes. Il fait en sorte que ça diminuait déjà, même avant le déluge. Parce qu'après le déluge, ça a été encore plus drastique. C'est comme si là, ça diminuait comme ça, puis après le déluge, ça fait ça de même. Ça va très, très vite. Parce que le déluge, on va perdre. Qu'est-ce qu'on va perdre au déluge? On va perdre la protection que la couche d'eau. The vapor canopy, la couche d'eau nous donnait. C'est que là, tout ce qui est radiation cosmique ou du soleil qui sont néfastes pour nos corps, qui carrément peuvent causer des mutations puis des maladies, on n'aura plus cette protection-là. On n'aura plus la pression augmentée dans l'atmosphère, les concentrations plus grandes des gaz importants pour nos corps. On n'a plus tout ça, va disparaître après le déluge. Et là, on arrive. Et c'est ça mon point. Ce matin, il est rendu quelle heure? Là? Je vais être sûr que je peux faire ce point-là. Moins 10. Et je vais finir avec ce point-là, c'est qu'on n'embarquera pas dans l'histoire du déluge. Puis mon but, c'était vraiment d'arriver au début du chapitre 6 ce matin. Je pense que j'essaie de faire le point, comment vous voyez que l'auteur arrive avec nos deux descendants, ça suit la prophétie du verset 15, chapitre 3. C'est comme Claire qui veut montrer, voilà la différence entre les deux descendances. Puis même durant le temps de la descendance de Seth, Enoch prophétise sur comment que l'impiété s'est répandue sur la planète. On le voit dans Jude. OK? C'est que ce gang-là, il n'y en a plus beaucoup qui marchent avec l'Éternel parce que il n'y en a plus beaucoup parce qu'à un moment donné, il va en avoir juste un. Okay? Vous comprenez que ça n'allait pas en augmentant, mais ça allait en diminuant le pourcentage de la population mondiale qui marchait avec Dieu. On ne se serait pas rendu au déluge si ce n'était pas ça. Okay? Mais le summum, si on veut, l'apogée du mal sur la planète, c'est au début du chapitre 6 qui arrive. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase pour Dieu. Puis moi, je pense que la meilleure façon d'interpréter le début du chapitre 6, c'est en le prenant dans son contexte puis en se rappelant ce que le chapitre 5, 4 et 3 viennent de nous dire. Parce qu'il ne change pas de sujet. Là. On vient de nous avoir deux descendances. Puis là, on arrive au début du chapitre 6. Okay? Et on faut continuer dans cette même idée-là. Parce que dans le chapitre 6, les expressions utilisées sont un petit peu peuvent être portées à confusion, mais portent moins à confusion si on se rappelle qu'il vient juste de parler de la descendance de Seth, puis il vient juste parler de la descendance de Cain. Puis là, on arrive au début du chapitre 6. Puis ça a l'air être dramatique ce qui se passe au début du chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme ou ne contestera pas toujours avec l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Là, je laisse le verset 4 à part, parce que lui, c'est un peu plus mélangeant. Bon. En lumière de ce qu'on vient de voir, chapitre 3, 4, 5, à votre avis, qu'est-ce qu'ils viennent de dire dans les chapitres 1 et 2? Si on regarde le contexte, si on regarde la ligne directrice de l'auteur, si on essaie de discerner ce que l'Esprit essaie de nous faire comprendre dans le texte, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi l'abomination qui vient de se passer dans le verset 1 et 2? Oui, tu me rappelles ton nom, je l'ai sur l'ennemi, c'est ça, je l'avais sur le blanc, oui. Exactement. Moi, je pense que c'est la façon la plus biblique, je prends ce terme-là pour interpréter ces versets-là, si on veut rester dans le contexte, et c'est ça l'abomination, l'apogée, c'est qu'il restait un petit noyau de la population qui marchait avec Dieu, qui invoquait l'Éternel. On le voit que ça allait en empirant, si on considère la prophétie d'Enoch, si on considère aussi le découragement de Lémec. Tu vois qu'il est là, il trouve ça lourd, qu'est-ce qu'il vit Lémec, quand il y a eu Noé, il lui donne un nom comme quoi que c'est lui qui va nous délivrer de nos malheurs. Mais là, l'apogée, c'est qu'à un moment donné, la planète se remplit de plus en plus. Les filles, les hommes, moi, je pense que les hommes ici, ils les appellent dans le texte, dépendamment, il y a des textes qui disent, moi, ça dit les hommes, dans d'autres textes, ça va dire, ça va dire les fils des hommes, peut-être, eurent commencé à se multiplier. Moi, je crois qu'à ce point-ci, ça parle vraiment de la descendance de Caïn. Parce qu'après ça, ça parle des fils de Dieu. Bon, là, il y a eu toutes sortes d'interprétations que c'était les anges. Des anges sont descendus puis se sont accouplés avec des hommes. Là, c'est probablement l'interprétation qui revient plus souvent. Il y a énormément de difficultés, je trouve, avec cette interprétation-là. En commençant par le fait que je vois pas en quoi ça a rapport avec le contexte de nous amener un récit d'anges qui se mêlent avec des hommes. Ceci étant dit, ça a beaucoup d'autres complexités parce que les anges sont asexués. Là. Il n'y a pas de mention de procréation sur les anges et de sexualité non plus. Je laisse ça de côté. Je veux juste revenir. Ils nous disent que, bon, là, il y a des filles qui sont nées aux hommes et les fils de Dieu ont vécu quoi? OK? Si on parle ici des fils de Seth, voilà ce qu'ils ont vu chez les filles des hommes. Ils n'ont pas vu, waouh, c'est des filles qui marchent avec l'Éternel, c'est cool, ils ont des belles valeurs. Non, c'est ils sont belles, puis à cause qu'ils sont belles, on s'en est choisi pour des femmes, pour être nos femmes. Et là, on va rouler quelques versets plus tard, puis après ça, là, quelques versets plus tard, il y a plus personne marche avec Dieu. Dieu, il trouve un homme qui a grâce à ses yeux, c'est Noé. Puis moi, je pense tout de suite au Nouveau Testament puis les encouragements qu'on a en tant qu'Église de Christ, en tant que croyant, de s'associer avec des croyants, puis particulièrement à travers l'union du mariage, qui est la plus grande union, de s'unir avec un croyant. Puis une des raisons avec ça, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs parce qu'on n'est pas rendu des saints, on est encore des pécheurs, sauvés par grâce, sanctifiés tranquillement, mais pas totalement, on n'est pas encore dépourvu de notre corps pécheur. Et là, on a dans l'Ancien Testament un exemple de ce que ça donne lorsque ces mariages, là je dis, c'est pas interraciaux, mais c'est interdescendance. Et c'est ça, je pense, qui a fait déborder, comment dire, Ça a été la dernière goutte qui a fait déborder le vase, c'est que là, tout d'un coup, il y avait encore une génération qui suivait l'Éternel, mais à un moment donné, ils ont commencé, parce qu'eux autres aussi sont pécheurs, à checker en plus quelque chose de super superficiel. Ces filles-là sont cute, on se marie avec elles. En se mariant avec eux, il y a sûrement une adoption de leur façon de penser à travers les générations, de leur religion, de leur humanisme, à un point tel que quelques générations plus tard, il n'y a plus aucune notion d'une descendance qui invoque l'Éternel. Il n'y en a plus. Parce que là, on va le voir, les prochains versets, toute la terre était corrompue, la violence était répandue sur toute la terre. Puis il y a seulement Noé qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé avec la descendance de Seth? Où est-ce qu'est passée cette gang-là qu'on vient de nous parler au chapitre 5? Mais je pense que le début du chapitre 6 nous le répond. Elle est passée où? Elle s'est mariée, se sont unies avec la descendance de Caïn, puis ça n'a pas pris quelques générations ou quelques années que ça l'a. Les enfants ont suivi puis ont carrément embarqué dans les mœurs de la descendance de Caïn. Parce qu'en bout de ligne, on est tous pécheurs. Okay? Moi,
ça veut dire que même
moi, je te dirais, là, honnêtement, c'est ça, là, c'est une bonne question, mais moi, je pense pas qu'on ait jamais atteint dans l'histoire de l'humanité un apogée de mal comme qu'il y avait à ce moment-là, puis Dieu est intervenu avec un jugement planétaire. Tu lis le texte, là, mes amis, il reste un homme. Il y en a-tu juste un homme aujourd'hui qui marche avec l'Éternel sur la planète? Non, mais là, c'est pas beau là, ce qui se passait à l'époque. C'est... Non. Non. Mais c'est pas beau, c'est ça.
Mais
oui, on va y arriver. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir un autre jugement dernier. Moi, on va y arriver à ce que tu dis, le verset que tu fais référence à chapitre 9. Mais juste pour mentionner quand même ici, c'est sûr qu'ici, on a une situation vraiment particulière. Il faut comprendre qu'on n'a pas l'historique qu'on a aujourd'hui, la venue de Christ, même l'établissement de religion, si on peut dire, même si ce n'est pas positif. Mais on est vraiment à un point, en tout cas, là, je vais vous amener l'autre verset pour compléter l'image, parce que c'était n'importe quoi sur la terre. Là. Puis il parle beaucoup de violence, il y avait beaucoup de violence. Et je vais amener l'autre verset, ça va compléter l'histoire. Puis là, Dieu constate ça, puis dit, OK, mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, je ne contesterai pas toujours avec l'homme. Là, je vais vous amener l'autre verset. Puis quand il dit maintenant, c'est parce que je viens de constater, Dieu dit, je vois que l'homme, il n'est que chair, il est charnel, c'est ça l'idée, c'est qu'il est faible. Puis même la descendance de Seth, elle est faible, et s'est tournée vers, juste à cause de la beauté extérieure, ont toutes laissé tomber, etc. Bon. La constatation de Dieu, puis là, Dieu fait un décret, fait une prophétie, ces jours seront de 120 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est qu'au moment, que Dieu a décrété ça, il allait avoir 120 ans avec Dieu amène son jugement. C'est que Dieu est en train de dire, dans 120 ans, je vais détruire la terre. C'est ça que le texte dit ici, puis ça fait très bien avec le fait que ça a pris à peu près 100 ans à construire l'arche. Okay? C'est que le décret de Dieu s'est peut-être fait une vingtaine d'années avant qu'il dise à Noé, construis l'arche. Ça y a pris 100 ans à construire l'arche. On pourrait en reparler de ça, le pensez-y. 100 ans maintenant à obéir à Dieu, à faire un bateau que tout le monde riait de lui. C'est quelque chose, on oublie ça. Là. Mais donc, Dieu dit, OK, bon là, c'est that's it. Mais Dieu aurait pu dire, quand c'est arrivé, il aurait pu dire, OK, on nettoie ça. Ah ouais, nettoie ça au complet. Non, encore une période de grâce. Encore 120 ans qu'il a donné pour que les gens se repentissent. Puis durant ces 120 ans-là, il ne s'est pas rien passé. L'Esprit de Dieu a été à l'œuvre durant ces 120 ans-là. Et ça, on va aller dans 1 Pierre 3. Peut-être un autre verset que vous n'avez jamais réalisé, mais c'est un verset qui parle de l'action de l'Esprit de Dieu durant la période de la construction de l'arche. Et c'est une belle référence au verset 3 aussi du chapitre 6. 1 Pierre 3. C'est que durant le temps de grâce, parce que Dieu a encore donné un temps de grâce de 120 ans, vous savez quand Noé construisait l'arche avec ses fils et ses belles-filles, là, c'était un témoignage envers l'Éternel qu'il était en train de faire, parce que le monde venait le voir. Il y en a qui venaient certainement le questionner ou l'écœurer. En bout de ligne, ça a été juste, il s'est juste fait écœurer, puis il n'y en a aucun qui s'est repenti de ses voies. Mais c'était un témoignage. Et c'est en Noé, dans le fond, que l'Esprit de Dieu a parlé à la population de l'époque. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, dans cet esprit-là, aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. De qui est-ce qui parle, là, ces esprits en prison-là? Verset 20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, on a une référence ici que, là, je ne vais pas nécessairement parler du verset 19, là, parce qu'on pourrait parler d'autres choses, mais que l'Esprit de Dieu était à l'œuvre du temps de la construction de l'arche. C'est ça que mon point que je veux faire ici. Puis, il était en train de prêcher aux gens qui étaient incrédules à cette époque-là. C'est que même ici, c'est une belle référence au verset 3, parce que là, Dieu dit, OK, mon esprit ne va pas toujours s'acharner à témoigner de ma justice, puis de justice, de péché, de jugement à la terre. Dans 120 jours, je règle tout ça. Mais il y a encore une période de grâce de 120 jours qui t'est donnée où son esprit a été là. Et c'est ce qu'un Pierre nous confirme. Puis là, comme si ce n'était pas assez, l'auteur veut juste nous montrer comment on était rendu comme au max. Là, okay? Et le verset 4 est dur à interpréter, je vous le dis, c'est pas clair. Mais encore là, je pense que si on le prend dans son contexte, parce que le contexte du verset 4, là, c'est qu'on là, on vient d'avoir là, quelque chose d'horrible qui s'est passé. Okay? On a une union entre les gens qui marchent et les gens qui ne marchent pas. Puis là, le verset 5 du chapitre 4, c'est des versets qui nous disent comment est-ce que la terre était totalement dépravée. Ça dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Puis là, si on continuerait un peu plus loin, on arrive au verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Verset 12, Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Ça ne peut pas être plus clair que tout le monde était corrompu. Okay? Dieu n'a pas envoyé un petit déluge en Mésopotamie pour corriger une tribu de 25 personnes qui n'étaient pas gentilles. Là. C'est toute la terre qui était violente. Okay? Puis le verset 4, c'est comme une autre confirmation de ça. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Et certainement qu'il y a une époque où il y avait beaucoup plus de géants sur la terre. Je vous ai déjà parlé comment qu'en paléontologie, puis dans toute notre... dans tous les fossiles qu'on trouve, il y a énormément de gigantisme. C'est-à-dire, la plupart des espèces qu'on a aujourd'hui ont des ancêtres ou des modèles géants d'eux autres, comme des castors géants. On a trouvé des fossiles de castors géants. Des arbres géants, on a trouvé des libellules géantes. Les dinosaures, c'est des reptiles géants. On a trouvé des fossiles d'hommes géants, des êtres humains géants, des empreintes d'êtres humains géants. On a trouvé énormément. Il y a beaucoup de gigantisme en paléontologie. Puis ça va bien avec le texte biblique, parce que le texte biblique nous dit justement qu'avant le déluge, c'était à l'époque où il y avait des géants sur la terre. Et à mon avis, tout était pas mal plus grand qu'aujourd'hui aussi. À mon avis, Adam et Ève étaient pas mal plus grands que 5 pieds 7. Ça, c'est un avis personnel, parce que je pense que le métabolisme était plus performant, tout était plus performant, il y avait plus d'oxygène dans l'air, comme j'ai dit, plus de pression, la création était parfaite. Bon, là, ça nous dit juste que c'était à l'époque où il y avait des géants sur la terre. Le mot géant qui est utilisé ici, c'est le mot néphilim, puis il va revenir seulement dans Nombre 13-32, où est-ce que ça va parler que les Israélites sont allés explorer le pays qui leur était promis, puis ils ont rencontré des gens de grande taille. C'est le mot Néphilim qui est utilisé là aussi, en faisant référence aux fils d'Anak. Vous vous rappelez, les fils d'Anak, peut-être dans l'Ancien Testament, c'était comme un restant de tribu qui avait encore du gigantisme parmi eux, probablement qui étaient juste restés ensemble, puis les gènes de géants étaient restés parmi eux. Donc, c'était à l'époque où il y avait des géants sur la terre. Maintenant, ce que je voulais dire avant de parler du verset-là, c'est que le verset 4, il n'y a aucune locution au début du verset qui fait un lien avec le verset 1 et 2. Okay? C'est vraiment un verset qui est séparé d'avant dans le sens que grammaticalement, il n'y a pas de lien entre verset 4 et verset 3 et 2. Parce que souvent, ce qui a accentué l'interprétation que les anges déchus seraient venus coucher avec les filles des hommes, c'est que ça leur aurait donné des géants, ces histoires-là. Parce que, tu sais, bon, ange, homme, il faut que ça donne des géants. Ça fitait, puis après, ça dit, ce sont les héros qu'on a connus dans l'Antiquité. Ça fitait un peu la théorie. Mais grammaticalement, il n'y a pas de lien entre les deux versets. On nous parle d'une situation, une autre situation de l'époque de Noé. Donc, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'est juste en train de dire, à cette époque-là, c'était l'époque où il y avait des géants, puis c'est l'époque aussi où il y a eu le mingling, le mélange entre les deux descendances. Puis le mélange, entre autres, qu'est-ce que ça a donné, le mélange entre les deux descendances, les filles des hommes, les filles des fils de Dieu? Ça a donné les héros des temps anciens. Okay? Donc, ça nous parle juste que c'était l'époque des géants. Ça, c'est une affirmation qui nous rappelle que c'était une époque où les géants habitaient la terre. Lorsqu'il y a eu ce mélange entre les descendants, les géants habitaient la terre. Mais le mélange a donné les héros des temps anciens. Puis le mot héros ici est un petit peu mélangeant parce qu'en français, c'est très positif comme mot héros, OK? Mais dans l'hébreu ici, le mot qui est utilisé n'est pas nécessairement positif, OK? Le mot comme tel, ce que ça veut dire grammaticalement, le mot, si tu fais une translittération du mot, là, ça veut dire tomber sur, ça veut dire attaquer, OK? Le mot qui est traduit par héros. Et je pense que la traduction ici peut nous faire penser à trop des héros positifs. Mais c'est vraiment ici l'idée, c'est des personnes qui étaient connues. Et je crois que c'est des personnes qui étaient connues pour leur violence. Okay? Parce que le mot comme tel veut dire attaquer, veut dire tomber sur. Je pense que, ultimement, ce que c'est en train de nous dire, c'est voyez comment on était rendu au pire que tu peux pas avoir pire, c'est que le mélange des deux descendances a entre autres donné des gens qui sont connus mondialement à cette époque-là, étaient connus. C'est des gens, tu parlais, mettons, je sais plus c'est quoi le mot hébreu, tu parlais de ces gens-là, mettons, le mot hébreu, là, puis tout le monde se rappelait ça, c'était du monde violent. Là. C'est ça, on avait la chienne d'entendre leur nom. T'sais. Il était notoire pour ça. C'est comme la cerise sur le sundae. Là, à l'époque du mélange, voilà ce que ça l'a donné. Puis ça, c'était une connaissance générale des peuples. On se rappelait de ces êtres violents-là. Ça devait être atroce ce qu'ils faisaient. Je n'ai même pas besoin de vous donner des images. Ça pouvait être assez quelque chose. Ce verset-là, pour moi, il est juste en train de faire un dernier coup de marteau sur le clou qui est en train de faire le point comme quoi là, qu'on est rendu à l'apogée du péché sur la planète. Puis en plus, cet apogée-là est le résultat du mélange des descendances. On a les gens les plus violents qui ont jamais existé. T'sais. Bon, c'est que, à mon avis, c'est la meilleure façon d'interpréter ces versets-là. Je termine avec ça. Et la semaine, pas la semaine prochaine, mais le 3 février, le 3 février, on va arriver, je pense que la table, elle est installée pour comprendre pourquoi Dieu arrive avec le jugement, parce que là, on a parlé comment est-ce que le péché était répandu sur la terre. Mais il y a une chose qu'il faut vous souvenir dans tout ça. Souvenez-vous pas, autant que la terre était méchante puis que Dieu allait tout détruire, souvenez-vous que Dieu a gardé la création en terre entière vivante à cause d'un seul homme qui marchait avec lui. Je pense que c'est la grâce de Dieu qui est plus resplendissante dans ce texte-là que la justice de Dieu. La justice de Dieu va être resplendissante parce que je vais vous le montrer comment que le déluge c'était pas un petit événement là, tranquille puis ça a été effroyable, OK? Mais en contrepartie, Dieu a gardé la race humaine en vie à cause d'un seul homme qui a obtint faveur en lui. Puis quand je vous dis, imaginez-vous être Dieu, là, je finis avec ça, il y a peut-être des millions d'habitants à cette époque-là, je ne sais pas, après 1600 ans ou 1700 ans d'existence, peut-être que la population mondiale avait dépassé le milliard, je ne sais pas, il faudrait faire des calculs. Puis là, il voit ça, là, le monde s'entretue, ça doit tuer des enfants, ça doit faire toutes sortes d'atrocités, OK? Ça doit être terrible, terrible, terrible. Les dernières générations qui marchaient avec lui sont même plus existantes. Là, je veux dire, son cœur est affligé, est attristé. Là. Il voit tout ça, là, le rejet de sa personne qui vient. Lui, il a créé cette création-là, le rejette, mais à outrance. C'est dégoûtant ce qu'ils font. Là. C'est comme un père qui regarde ses fils qui l'ont renié. Puis ce qui sort de tout ça, c'est qu'il en voit un. Il en voit un parmi des millions et des millions. Puis à cause de celui-là, il va préserver la race toute entière à cause de un. Puis je pense que c'est ça l'image qu'il faut se rappeler. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y en a un là, là. C'est quand souvent, quand nous, on oublie la grâce de Dieu envers nous pour nos propres vies, puis on vit de la culpabilité, ou on oublie comme le Dieu qu'on est en train d'adorer, mais c'est ce Dieu-là. Pour une personne, il a préservé la race entière et les animaux et tout.